Vous écoutez
RMC. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h32, vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Impossible de commencer ce face-à-face sans exprimer un mot pour Jean-Pierre Elkabbach, qui est évidemment un modèle de l'interview, toujours curieux, toujours passionné, toujours insatiable. Et c'est avec une certaine émotion ce matin que je repense à ses encouragements, toujours pour les jeunes, avec curiosité pour tous ceux qui débutaient dans ce métier. Et donc, je voudrais le saluer ce matin. 8h32 donc sur RMC et BFM TV. Bonjour Audrey Deverlois, vous êtes la patronne de Sanofi France. Votre parole est extrêmement rare. Vous venez d'ailleurs d'être nommée. On va parler donc santé, mais aussi inflation, pénurie, prix, souveraineté aussi et indépendance de la France. Patronne de Sanofi, je disais, le Doliprane, c'est vous. Le nouveau vaccin contre la bronchiolite, c'est encore vous. Et cette première question, on a traversé l'année dernière une pénurie que tous les Français, à certains niveaux, ont connue. Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin que nous aurons du Doliprane et des vaccins pour passer l'hiver ?
Alors, bonjour et merci de l'invitation. Vous avez évoqué un certain nombre de sujets qui intéressent bien évidemment tous les Français et on voit que la santé est au cœur de leurs priorités. Alors l'hiver dernier, c'est important parce qu'on arrive dans une nouvelle période hivernale. Donc qu'est-ce qu'on a appris de l'hiver dernier? Vous l'avez mentionné, je vois la petite boîte jaune là
j'ai
sur la table.
J'ai apporté le Doliprane l'an dernier, j'en ai manqué un. Je faisais partie de ceux qui avaient cherché désespérément des sirops Doliprane pédiatriques pour mes enfants, comme beaucoup d'autres Français. Donc oui, j'en ai là, mais est-ce que j'en aurai cet hiver?
Alors, ce qui est important, c'est de se dire qu'est-ce qui s'est passé l'hiver, parce qu'il faut comprendre en fait et tirer les leçons. C'est l'hiver dernier, il y a eu 3 épidémies en même temps. Le Covid, la bronchiolite et la grippe. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est comment un industriel comme nous, on se met vraiment au service aussi de l'État et des Français pour répondre à une triple épidémie. Bien évidemment, le temps industriel n'est pas forcément le temps de 3 épidémies en même temps, mais c'est de contribuer au maximum avec notre production. Donc là, un exemple précis, l'usine de Lisieux et aussi Compiègne,
où on fabrique le Doliprane
pour la France. Donc on a sorti 424 millions de boîtes, c'est historique hein, depuis le lancement du Doliprane, depuis 1964. C'est une production qui est absolument très très conséquente. Alors une fois qu'on a dit ça, ça veut dire qu'il faut faire plus aussi sur la prévention. Et donc c'est les sujets que vous avez évoqués sur la bronchiolite, la grippe. Il y a des campagnes vaccinales et on peut aller bien sûr beaucoup plus loin sur la campagne
vaccinale. Je vais en parler de la bronchiolite parce que pour le coup ça manque déjà. Vous êtes presque victime du succès du traitement proposé pour les nouveau-nés. Mais pardon, je repose la question, vous ne m'avez pas assuré qu'on n'en manquerait pas cet hiver?
Alors on n'en manquera pas si on est tous aussi responsables. Et être tous responsables, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut tous contribuer, citoyens jusqu'à l'industriel. Je vous garantis que
nous mettons, c'est un peu de notre faute parce qu'on avait des stocks, parce qu'on aurait trop consommé.
Pas du tout. Ce que je dis, c'est qu'il faut qu'on agisse tous. Nous, j'ai garanti auprès de l'État et du ministère de la Santé et de la Prévention qu'on garantissait toujours la même production et encore une fois les collaborateurs qui sont 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans nos usines.
Les usines, elles tournent à plein régime.
Elles tournent tout le temps nos usines de Doliprane. Mais ce qu'il faut qu'on fasse tous aussi, c'est des campagnes vaccinales efficaces. Sur la bronchiolite, et je reviens parce que vous l'avez dit...
La bronchiolite, je vais juste préciser de quoi il s'agit. Vous faites partie de ceux qui commercialisent, c'est pas forcément vous qui produisez, mais vous commercialisez le tout nouveau traitement. Alors on a parlé d'un vaccin, en réalité il semble que ce soit un traitement à proprement parler, contre la bronchiolite. Et il se trouve que la très grande majorité des nouveaux parents ont décidé de vacciner leurs enfants, alors que vous n'imaginiez pas que ça ait un tel succès. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des parents qui vont à la pharmacie, qui demandent ce vaccin pour leur nouveau-né et qui ne l'ont pas.
Alors, pourquoi? En fait, c'est là qu'il faut revenir quelques semaines et quelques mois, finalement, en
arrière. Allez-y, expliquez-nous.
C'est très important de comprendre qu'on est sur une réelle innovation thérapeutique. Donc, en fait, vous l'avez cité, une injection pour un nourrisson et il est couvert sur toute cette période hivernale. Ça, c'est une réelle innovation thérapeutique puisqu'on n'avait pas de traitement pour la bronchiolite. On finalement traité les symptômes et malheureusement, c'était environ 35 000 hospitalisations dans les services de pédiatrie. Donc, quand on pense hein, l'hiver dernier, finalement, on a un moyen aujourd'hui d'éviter un certain nombre d'hospitalisations. C'est un succès pour la France. Pourquoi? Il y a deux raisons. Un, l'État, avec Sanofi, a été capable, et ça je fais une pause là-dessus, mais pour dire qu'il y a 5 pays, allez, 4 on va dire, dans le monde, qui ont été capables de mettre en place des campagnes vaccinales dans un délai record. Ce qui est du jamais vu. Voilà, je pense.
Ça veut dire que le premier bébé, le tout premier bébé du monde à avoir reçu ce traitement contre la poliomyélite,
c'est un bébé français. Donc là, il y a quand même une source de fierté. On ne dit pas assez. En fait, on a été capable, avec l'État, de mettre en place dans un temps record cette campagne. Deuxième point, quand même, et vous l'avez souligné, l'adhésion. L'adhésion des parents et l'adhésion des professionnels de santé. Ça, c'est du historique. C'est vraiment, c'est du jamais vu.
C'est là que ça vous a complètement sidéré, y compris vous. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup entendu les anti-vax, les anti-vaccins, depuis notamment le Covid. Sur cette question, voulez-vous vacciner ou faire de manière préventive ce traitement à votre enfant contre la bronchiolite, il y a 80% des parents qui ont répondu oui.
Et c'est historique, et on doit tous se réjouir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si on regarde, finalement, quand c'est une année, hein, on ne peut pas tellement avoir une année de référence, donc on regarde ce qui existe en termes d'adhésion dans les campagnes. Pour, en général, des vaccinations pédiatriques non obligatoires, c'est entre 10 à 30% d'adhésion. Donc là, vous l'avez cité, entre 60 et 80%, c'est du jamais vu. Sur la grippe, après des années, on va dire, d'expérience, on est à une couverture vaccinale de 50%. Donc en fait, on atteint un score dont on doit tous être super fiers, parce que finalement, ça donne un signe pour le futur que les craintes qu'on pouvait avoir d'une certaine minorité qui fait beaucoup de bruit, et vous avez dit, ces anti-vax, elles sont absolument infondées.
Donc, oui, c'est des vrais signes positifs pour le futur. Sauf que le résultat, ok, vous pouvez vous réjouir, et ça, je l'entends bien, mais le résultat, Audrey Dervellois, et je précise pour ceux qui nous écoutent, je reprécise que vous êtes donc la patronne, la présidente de Sanofi France, c'est qu'au moment où on se parle, là, ce matin, s'il y a des parents qui se disent, bah, c'est génial, je peux avoir ce traitement pour mon enfant, ils vont se rendre à la pharmacie, et ils ne pourront pas trouver ce vaccin, à tel point que le président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine, Pierre-Olivier Vario, il dit c'est dramatique. On montre encore que la France est incapable d'être indépendante en termes de production de médicaments. Qu'est-ce que vous lui répondez ?
Je suis absolument pas d'accord. Que je pense qu'au contraire, c'est pas du tout une source d'insatisfaction. Je comprends le point, mais en revanche, encore une fois, la France est un des pays, premiers pays dans le monde à mettre en place, et en plus, on a été priorisé sur ces doses. Il faut rappeler ce qu'il faut d'abord penser, c'est qui a besoin. Qui a besoin de ce traitement ? Et ceux qui en ont besoin, finalement, c'est les nourrissons qui ont le plus petit poids. Donc, c'est les nourrissons qui vont arriver dans les maternités. Donc, la décision qui a été prise par l'État, c'est de dire, amenons finalement ce traitement au plus près de ceux qui en ont besoin.
Donc on va les distribuer non plus en pharmacie, mais en maternité.
Exactement, en maternité, hein, parce que c'est ces petits bébés qui en ont besoin. Et je pense que le bon sens commun, c'est d'apporter ces doses au plus près de ceux qui en ont besoin.
Il y a un plan de lutte contre les pénuries de médicaments qui est exposé aujourd'hui dans le budget. Ça s'appelle le plan blanc du médicament. Et l'objectif, c'est justement de garantir qu'il n'y ait plus de pénuries. L'État est prêt à créer une sorte de blocage automatique de toutes vos exportations. C'est la directrice de l'Agence nationale du médicament qui l'affirme. Pour tous les médicaments, lorsque l'on a des tensions, je bloquerai automatiquement toutes les exportations.
Alors moi, ce que je voudrais dire sur ce sujet-là, c'est que les pénuries, c'est multifactoriel. Il y a parfois, on a cité, hein, pour commencer, quand il y a des triples épidémies, on a une augmentation de la demande. Donc c'est comment nous, industriels, on peut augmenter la production. Quand on peut, on le fait. Parfois, c'est pas possible parce qu'encore une fois, produire des médicaments, ça se fait pas en 24 heures. Donc faut pas faire croire aux Français que c'est quelque chose qui va être possible.
Oui, mais bon, c'est aussi votre rôle et le rôle du ministère de la Santé d'anticiper.
Exactement. Et en fait, c'est de le faire tous ensemble. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? On partage en toute transparence les niveaux de stock. On partage aussi en amont, parce qu'on n'attend pas de ne plus en avoir, et très souvent, c'est plus des tensions que des réelles pénuries. Donc, on partage en amont avec les autorités de santé. Et là, il y a des mesures qui sont prises, des mesures de contingentement, pour être sûr que le pharmacien puisse, bien évidemment, délivrer au bon patient le bon traitement.
Avec notamment la question aussi de vendre à la gélule et non plus à la boîte, on va y revenir. Mais quand vous entendez, c'est ce matin, hein, qu'elle l'a dit, la directrice de l'Agence nationale du médicament, qu'elle était prête à bloquer vos exportations, vous étiez au courant, vous saviez, vous en avez discuté avec eux, vous avez dit OK ?
Nous, ce qu'on fait avec eux, c'est en fait, ce qu'on fait, c'est par
vous
molécule.
Vous avez l'air presque surprise, si je
non,
peux.
Non, je suis pas surprise.
Vous avez l'air au minimum surprise, voire même pas forcément hyper contente de cette annonce.
Pas du tout, parce qu'on travaille avec eux main dans la main. Et en fait, il faut quand même le dire, ça se passe très souvent très bien, parce qu'en fait, je dis pas qu'il y a pas de tension. Ce que je dis, c'est qu'on travaille avec eux. On a l'habitude de travailler avec eux.
Mais dire c'est nos interlocuteurs est prioritaire. Donc, on va réquisitionner l'usine de Lisieux. Je prends cet exemple puisque vous nous disiez.
Mais Lisieux, c'est un bon exemple. Voilà. Toutes les boîtes qui sortent de Lisieux sont pour les patients français. Voilà.
Donc, si vous aviez à cœur d'exporter quelques médicaments que ce soit, qu'on dise, on bloque les frontières et vous gardez tout le stock pour la France, vous êtes OK.
Il faut pas il y a des contrats déjà qui existent avec certains pays, donc on doit aussi respecter.
Quand elle dit ça, elle vous oblige à casser vos contrats en quelque sorte.
On travaille avec elle et ses équipes tous les jours. Donc en fait, honnêtement, ça doit se passer par de la collaboration. Et encore une fois, ça peut pas être des grandes annonces générales parce qu'il faut regarder molécule par molécule. Et c'est encore une fois ce que tout le secteur fait. Faut pas oublier que notre mission, nous, c'est d'apporter les médicaments auprès des patients. C'est pas de les laisser dans des hangars. Donc nous, ce qu'on fait, c'est on les distribue au plus vite en tout cas pour ceux qui en ont besoin.
Avec évidemment une question. Vous représentez le plus gros laboratoire pharmaceutique français, Sanofi, et vous représentez d'ailleurs également les laboratoires européens, puisque vous êtes aussi la présidente du représentant des laboratoires européens. Cette question quand même, quand vous décidez de produire tel médicament plutôt que tel autre, est-ce que c'est vraiment uniquement pour notre santé ou est-ce que c'est pour faire des profits?
Alors,
vous essayez quand même de trouver.
Je suis pas la représentante, on va dire pour les pays européens, mais en tout cas, je suis présidente de la fédération. Voilà, ce qui est important, je vais rappeler quand même pour un groupe comme Sanofi. Qu'est-ce qu'on fait nous sur le territoire? On a de l'innovation scientifique et on a de l'outil industriel. Sur l'innovation scientifique, bien évidemment, on investit en R&D 2 milliards.
R&D, c'est la recherche et le développement.
C'est
ce qui se passe en labo pour tenter de trouver un traitement.
Et ce qu'on fait aussi, bien évidemment, c'est la production et donc c'est nos sites industriels. Pour avoir justement un bon niveau de production, il faut investir sur le territoire. Donc, un groupe comme nous, c'est ce que nous faisons. Nous investissons 300 à 400 millions tous les ans sur nos sites industriels, avec de l'innovation pour produire plus.
Et on va se dire les choses. Mmh. La semaine dernière, à ce même micro, je recevais François Ruffin, le député La France Insoumise, qui a parlé de Sanofi, qui a pointé du doigt Sanofi, qui ne jouerait pas le jeu justement de la souveraineté européenne. Vous avez réagi, et c'est à ce moment-là que je vous ai dit, écoutez, vous savez quoi ? Venez parler d'Oliprane, tout ça, c'est dans la vie quotidienne des Français, venez le dire vous-même. Je voudrais que vous écoutiez ce qu'a dit François Ruffin et que vous puissiez lui répondre.
À l'intérieur d'une entreprise comme Sanofi, ce sont des milliers de salariés, des milliers de chercheurs qui ont envie de répondre aux besoins du pays. Et qu'est-ce qui se passe ? Le capital, les actionnaires, le PDG de l'entreprise fait le choix de fermer des centres de recherche, de fermer des usines en France et de délocaliser la production en Inde et en Chine. Il y a 20 ans, c'était 80% de la production qui se faisait en France. Aujourd'hui, c'est 80% de la production qui se fait en Inde et en Chine.
Alors ?
Je vais pas polémiquer avec Monsieur Ruffin. En revanche, ce qui me donne l'opportunité, c'est de revenir sur la réalité, parce qu'on n'est pas sur des bases idéologiques. Sur la réalité, qu'est-ce qui se passe? Je vous le disais, en France, on est le premier investisseur privé en recherche et développement. Et on est aussi le laboratoire qui produit le plus en France. Pour maintenir, parce que nous, on parle pas de ramener, puisqu'on est là, on n'est jamais parti. Donc nous, pour maintenir...
Quand il dit que vous produisiez 80% de vos médicaments en France il y a 20 ans, c'est juste ?
Est-ce qu'on fait j'ai pas le chiffre d'il y a 20 ans. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui,
vous produisiez plus en France.
Les chiffres qui se citent sont ceux du secteur. Du secteur pharmaceutique.
Pas seulement de Sanofi.
Sanofi n'est jamais parti de la France. Sanofi, aujourd'hui, produit 60% de sa production en Europe et 40% en France. Donc Sanofi a fait le choix de la France et continue à investir massivement. Si vous me permettez de citer quelques chiffres. Ouais. On a 300, je vous le disais, entre 300 et 400 millions d'investissements sur nos sites industriels tous les ans. Donc je ne vous parle pas de cumuler sur 10 ans ou 20 ans, je vous parle de tous les ans, on met 300 à 400 millions sur nos sites industriels. 140 millions sont dédiés à de l'augmentation de production, parce que vous l'avez cité, quand il y a des pénuries, c'est souvent il y a un besoin de production supplémentaire. Donc on investit massivement 140 millions pour augmenter la capacité. Ce qu'on regarde aussi, c'est, je vous parlais d'innovation, c'est d'avoir des usines qui sont plus performantes, plus agiles et plus vertes. Donc, on investit partout sur nos territoires, parce que c'est la France, c'est nos territoires. Je voudrais juste terminer sur ça.
Ouais, mais
sur la région, justement, ce qu'il faut, c'est qu'on ait l'outil industriel partout.
Ça, j'ai bien compris que vous le développiez, ok. Mais est-ce qu'on est dépendant de la Chine, de l'Inde
pas Sanofi. On source moins de 5% de nos principes actifs, donc c'est ce qui est efficace dans le médicament, moins de 5% en Asie. Donc nous ne sommes pas dépendants, Sanofi, de l'Asie. Parce qu'on investit, et je me permets juste de revenir sur le territoire français, on met 1 milliard sur la filière ARN messager dans la région lyonnaise. On est en train de construire une usine qui sera la première usine évolutive en région lyonnaise pour faire l'ARN messager. Donc la France, grâce à Sanofi, aura la seule chaîne de la recherche à la production pour l'ARN messager, donc les vaccins de demain, de deuxième génération. On investit aussi Val-de-Reuil,
et vous embauchez, hein, le secteur pharmaceutique prévoit d'embaucher 10 000 personnes cette année. Audrey Dervelois, je rappelle donc que vous êtes la présidente de Sanofi France. Il y a quand même un moment où il faut se dire les choses. C'est quand même l'offre et la demande. C'est-à-dire, ça a beau être la santé des Français, c'est quand même l'offre et la demande. Et quand on regarde comment sont fixés les prix, avec aussi cette question demain d'une franchise médicale qui pourrait être doublée, ça c'est pas la question pour vous. Au fond, c'est la question pour le consommateur du médicament. Est-ce qu'il sera remboursé par la Sécu ou pas? Les prix des médicaments, ils sont donc fixés, je le disais, par les États. La France vous paye moins que nos voisins. On paye le prix des médicaments en France 50% moins cher qu'en Suisse, 37% moins cher qu'en Allemagne et 29% moins cher qu'en Italie. Est-ce que ça veut pas dire quand même qu'à un moment, quand on est dans une tension, bah vous allez aller voir le plus offrant?
Non, ce que ça veut dire, c'est qu'on doit, et c'est pas moi qui le dis, c'est aussi le président de la République, avoir un juste prix pour le médicament.
Il a fini par le dire. Il a fini par le dire parce qu'il s'est rendu compte que
sinon, une fois qu'on l'a dit, il faut passer dans les actes.
Livrer, quoi. Sinon, vous n'alliez pas livrer les Français.
Non, c'est parce qu'on l'a toujours fait, on a toujours livré et on continuera à le faire. En revanche, la question du prix, elle est clé. On ne peut pas continuer à avoir une souveraineté ou à dire qu'on veut une souveraineté nationale sans y mettre le prix. La souveraineté nationale, ça a un prix et il faut avoir le juste prix. Et aujourd'hui, on est tout le secteur à alerter sur le fait qu'il faut un prix qui garantisse à la fois les produits matures, mais aussi qui garantisse l'innovation. Parce que qu'est-ce que veulent les Français? Ils veulent avoir accès à des produits matures, avoir accès à l'innovation, dans le temps, parce que l'idée, c'est pas de l'avoir des années après les autres, et ils veulent avoir des usines en France. Donc, pour avoir ça, il faut aussi investir dans le secteur de la santé et arrêter de penser que c'est un coût. C'est un investissement, en fait, la santé.
Mais est-ce que ça veut dire que il faut comprendre que dans les semaines, dans les mois, peut-être dans les années qui viennent, les médicaments vont augmenter. La boîte de Doliprane, je le disais, c'est 2,14 € si je ne me trompe pas, pour la boîte de 1 gramme. Est-ce que demain, elle va passer à 3 €?
J'aimerais bien, si vous me posez la question à moi, parce que pourquoi ce qui se passe dans notre secteur, c'est que nous, on a des coûts liés à l'inflation, hein, comme tout le monde, mais nous, contrairement aux autres, on ne peut pas répercuter ces coûts. Donc à chaque fois qu'il y a un coût supplémentaire, par exemple sur les vaccins grippe, les œufs, hein, on utilise beaucoup les œufs pour produire notre vaccin grippe, quand le coût augmente, on ne peut pas le répercuter. Vous avez cité sur le Doliprane, le verre, le Manitol, etc. On ne peut pas augmenter et répercuter l'inflation sur notre prix.
Sur une boîte de Doliprane, encore une fois, 2,14 €, si j'ai bien compris, il y a 78 centimes d'euros qui vous reviennent et il y a 1,10 € pour le pharmacien. Ça paraît assez déséquilibré.
Alors, c'est pas nous qui fixons ça, encore une fois, hein. Nous, on a effectivement 78 centimes sur cette boîte. Donc, si vous me demandez, je reviens à votre question, est-ce qu'on doit baisser le prix? Certainement pas. Mon avis personnel est qu'au contraire, il faudrait prendre en compte, finalement, et vous avez cité notamment le pédiatrique. Je pense que quand on a des tensions, faut quand même être responsable et pouvoir payer le juste prix. Et encore une fois, c'est pas moi qui le dis.
Délivrer les médicaments à l'unité possible, vous pouvez jouer le jeu?
Alors, en tout cas, c'est une idée qu'il faut creuser. On l'a vu sur les antibiotiques. Certains pays le font. Est-ce que l'outil industriel permet de le faire pour toutes les molécules? Encore une fois, il faut s'asseoir, il faut regarder molécule par molécule. Mais je pense qu'à partir du moment où il y a des mesures intéressantes pour regarder des volumes de consommation responsable pour le français, bien évidemment, tout le secteur est prêt à s'asseoir et Sanofi, bien sûr, pour regarder.
Au moment où on se parle, Audrey Dervelois, est-ce qu'il y a des médicaments dont vous pressentez qu'ils vont être en tension, dont les stocks sont un peu à vide? Est-ce que vous pouvez nous prévenir ou est-ce que vous pouvez prévenir les pharmaciens des points sur lesquels il faudrait anticiper?
Alors, c'est ce qui existe déjà. En fait, il y a un processus en fait qui existe, comme vous citiez l'agence tout à l'heure. En fait, on partage en toute transparence les niveaux de nos stocks.
Et avec nous?
Et on le partage avec les professionnels de santé parce que c'est eux qui sont en première ligne. Donc évidemment, les informations sont disponibles auprès de l'agence et suivant les niveaux de tension, l'agence décide de prévenir les pharmaciens qui sont eux en première ligne. Et donc on travaille. Et je pense que c'est une leçon. Je pense qu'il y a une leçon qui a été faite quand même de l'hiver dernier. C'est d'améliorer la communication. Et c'est vrai qu'on l'a pris aussi en se disant comment on peut mieux communiquer auprès des pharmaciens qui sont aussi un acteur clé et d'être sûr qu'il y a l'information.
On a eu l'impression aussi que c'était la loi de la jungle. C'est-à-dire c'était au pharmacien le plus informé qui allait avoir pris son téléphone.
Ça, c'est pas normal.
Pour passer ses commandes plutôt que les autres. Ce qui est quand même hallucinant parce que ça crée une inégalité en termes de territoire, en termes de patients et pour certains, notamment des parents qui avaient des traitements nécessaires contre l'asthme ou des antidouleurs essentiels pour leurs enfants qui se sont retrouvés, si pas de chance, le pharmacien n'avait pas posé.
Je suis maman, je suis médecin et moi aussi j'ai besoin de médicaments pour mes enfants. Donc j'ai bien conscience que c'est pas normal. On doit absolument améliorer la communication. Et je signale juste que très souvent, ce qui se passe, c'est quand on est en tension comme ça, on met des mesures. Le pharmacien appelle le laboratoire et c'est arrivé pour un cas notamment cet hiver où dans les 48 heures, on livre le pharmacien et on a été en mesure sur ce médicament typiquement d'apporter 100%. Alors une molécule dont j'ai pas le droit de dire, mais un antiépileptique dont on a beaucoup parlé. Donc il faut aussi qu'on améliore cette communication.
Qui était donc vitale.
Exactement.
La franchise médicale.
Et toutes les pharmacies ont été livrées dans les 48
heures. Une toute dernière question, Audrey Dervelois. La franchise médicale qui pourrait passer de 50 centimes à 1 euro. Vous en parlez avec l'Agence du médicament. Vous en parlez avec le ministère de la Santé.
Alors, c'est pas nous qui en parlons, parce qu'en fait, il y a, on va dire, trois groupes, sur ce sujet-là. Les industriels et nous, on contribue fortement, finalement, au budget de la sécurité sociale par une fiscalité qui est quand même massive. Il y a ce que peuvent faire les patients et bien évidemment ce que peuvent faire les médecins.
Donc
c'est au niveau des patients et là c'est pas nous qui
sera donc au ministère de la Santé. Merci Audrey Dervelois d'être venue répondre à mes questions ce matin.